Salutations à vous. Avant de commencer la prédication, j'ai su que vous passiez par un moment triste, un moment de deuil, et je ne suis pas insensible à ça. Et j'aimerais vous dire que la grâce et la paix de Dieu vous consolent. J'aurais aimé pouvoir accompagner ces salutations avec le texte de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 qui est une belle consolation pour le croyant. Alors je m'empresse de le lire. Au verset 13, il nous est dit: nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur: nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Amen. Soyez consolés, chers frères et sœurs. Alors, comme à mon habitude, je prends le texte que propose la lecture de la Bible du jour. Il était prévu que je sois là la semaine dernière, le 5. Donc, j'ai pris le texte du 5. Et donc, ce texte sur lequel je vous propose de méditer ce matin est une partie de la formation que Jésus donne à ses disciples avant de les envoyer sur le champ de mission. C'est une deuxième étape dans le ministère de Jésus au cours de laquelle il se prépare à passer la main à ses disciples. C'est un texte qui bouscule. J'ai été bousculé moi-même. Mais c'est un texte qui renferme, et vous le verrez, la notion de crainte, de peur. Ceux qui peuvent survenir lorsque nous devons nous atteler à la mission de propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous parlons plus couramment aujourd'hui d'évangélisation. Et c'est donc dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, que je vous invite à tourner vos Bibles au verset 24 à 33. Matthieu 10, 24, 33. Vous êtes là? C'est affiché. Merci. Version Semeur, donc. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui se cache finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vantons pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclarent pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Amen. Si je devais résumer l'idée principale que véhicule ce texte, je pourrais le résumer ainsi. Puisque vous serez persécutés comme Jésus a été persécuté, n'ayez pas peur. Mais soyez courageux, parce que Dieu est aux commandes et Jésus est le maître de justice. Alors je reprends l'idée. Puisque vous serez persécutés comme Jésus a été persécuté, n'ayez pas peur, mais soyez courageux, parce que Dieu est aux commandes et Jésus est le maître de justice. L'idée de la persécution parcourt l'ensemble de l'Évangile. Et ceux qui ont déjà parcouru quelques pages de la Bible, surtout dans les Évangiles, hein, vous avez dû remarquer cela. Et dans l'enseignement que Jésus donne à ses disciples, dans le cursus de leur formation avant de les envoyer en mission, Jésus intègre cette notion de persécution qui, selon lui, est intimement liée à la proclamation du royaume de Dieu. Parce qu'autant elle rencontre l'adhésion de certains, ce message, cet évangile, autant elle rencontre aussi des oppositions. Il y a des gens qui n'aiment pas ce message. Et cette opposition qui est potentiellement source de persécution. Lorsque les gens n'aiment pas entendre ce que vous dites, ils s'y opposent. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une séance à l'Assemblée nationale. C'est pas beau à voir. Et donc tout le discours de Jésus dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu consiste à faire prendre conscience aux disciples de la réalité du sacrifice nécessaire et de la souffrance qui les accompagneront en se mettant à son service. Mais avec l'assurance de son soutien et de sa récompense. Alors commençons par la première partie de la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure. La persécution fait partie de la mission. Puisque vous serez persécutés. La persécution, la souffrance, est intégrée à la notion même d'évangélisation. Et en lisant les versets précédents, nous voyons qu'à plusieurs reprises, Jésus attire l'attention des disciples sur le fait qu'ils, s'ils sont d'accord pour le suivre, nécessairement, ils souffriront. Nécessairement, ils rencontreront l'opposition. Ils seront persécutés. Verset 18. On vous forcera à comparaître devant les gouverneurs et des rois. Verset 19, lorsque on vous livrera aux autorités. Verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et donc il semble que Jésus comprend l'engagement du disciple vis-à-vis de lui et vis-à-vis de la mission qu'il leur confie, comme faisant nécessairement l'expérience de la persécution. Revenons au verset 24 et 25, Jésus qui dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître. » Ou en tout cas que celui qui l'enseigne, comme dit ma version. « Ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur d'être comme son maître. » Et le verset qui tue, « S'ils ont traité le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de la maison ?» Et dans ces versets, Jésus met les choses au clair. Le disciple ressemble nécessairement à son maître. Nécessairement. Le disciple fait ce que fait son maître. Et dans le contexte de notre texte, si le maître proclame le message de l'évangile, le disciple lui aussi doit proclamer le message de l'évangile. Pas le choix. C'est une obligation, une nécessité même. Si le disciple ne fait pas ce que fait le maître, il peut être disciple de quelqu'un d'autre, mais pas du maître. Parce que le disciple fait ce que fait son maître. Celui qui veut être disciple du Christ doit faire ce que fait le Christ. Et donc ce disciple-là doit s'attendre à souffrir. Il doit s'attendre à passer par des moments de persécution. Non pas à cause de choses qui pourraient lui arriver parce qu'il ne les aime pas, mais précisément à cause de son allégeance à Christ et à la proclamation du message de l'Évangile. Si le maître a souffert, le disciple souffrira également. Il sera exposé aux mêmes insultes, aux mêmes moqueries. Il sera aussi traité de Satan, parce que c'est ce qu'on a dit de Jésus, en le nommant Belzébul, et on le voit plus précisément au chapitre 12, verset 24. On lui a taxé d'inspiration démoniaque parce qu'il proclamait un message auquel il ne s'y attendait pas. Ce n'est pas ça que les gens de sa génération attendaient. Pour les opposants à Jésus, le message qu'il proclame est d'inspiration démoniaque. Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous faites ce que je fais, vous n'échapperez pas à ces insultes-là. Vous serez aussi faussement accusé, comme j'ai été, moi, faussement accusé d'avoir agi sous l'influence de démons. Alors peut-être que vous n'avez jamais été accusé d'être sous influence démoniaque, pas moi. Mais peut-être que vous avez déjà été faussement accusé. Moi, oui. Peut-être qu'on on a déjà menti sur votre compte et que vous l'avez su. Peut-être qu'on a déjà porté un mauvais jugement sur vous. Peut-être qu'on vous a déjà maltraité à cause de vos origines, à cause de votre classe sociale, à cause d'un quelconque message que vous portiez. Et vous savez très bien que ça a été une occasion de souffrance pour vous. Jésus dit à ses disciples que cela fera partie de l'expérience du disciple. S'il lui a vécu ces choses, eux aussi en feront l'expérience. Le disciple n'est pas supérieur à son maître. Et donc pour Jésus, la persécution des disciples est une certitude. C'est une obligation. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne se produise. Mais ce n'est pas le tout de ce que dit Jésus dans ce texte. Il leur dit, puisque vous serez persécutés comme j'ai été persécuté, n'ayez pas peur. Soyez courageux. Et ça, c'est mon deuxième point. On peut dire que cette injonction de ne pas avoir peur est même le centre du message de ce chapitre 10 de Matthieu. Quatre fois, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quatre fois dans le texte, nous avons le verbe « craindre ». Jésus l'utilise trois fois de façon négative et une fois de façon positive. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus vient de dresser un portrait peu ragoûtant de la mission du disciple. Et tout de suite après, il vient et il dit, n'ayez pas peur. Vous allez être persécutés, mais n'ayez pas peur. Les difficultés qu'il a évoquées dans les versets précédents ont certainement généré un fort sentiment de crainte, de peur chez les disciples. Quoi de plus normal pour des gens qui commencent tout juste à comprendre où est-ce qu'ils sont mis les pieds. Ils commencent tout juste à comprendre ce que ça veut dire suivre le maître. On vient de leur dire qu'ils seront maltraités, qu'ils subiront des moqueries, qu'ils seront faussement accusés. Et Jésus est conscient que tout cela peut générer chez eux de la peur. À tel point qu'ils pourraient vouloir abandonner la mission. Mais dans le même temps, Jésus veut les rassurer en demandant de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. À trois reprises, il va le dire au verset 26, « N'ayez donc pas peur de ces gens-là. » Verset 28, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps. » Verset 31, « N'ayez donc aucune crainte. » Alors prenons le premier, la première injonction. N'ayez donc pas peur de ces gens-là. Et dans cette phrase, focalisons-nous sur ce petit mot, donc, dans la phrase, qu'on appelle en français conjonction de coordination. Et on se rend compte qu'elle relie ce que dit ici Jésus à ce qui vient d'être dit dans le verset précédent. Elle indique que la raison pour laquelle les disciples ne doivent pas craindre ou avoir peur des opposants du message, c'est parce que vous serez maltraités, mais comme moi, j'ai été maltraité. Vous souffrirez comme moi, je souffre ou j'ai souffert, ou je souffrirai. Et ces deux mots, comme moi, revêtent une importance capitale dans ce passage. Ce que Jésus sous-entend dans ses propos, c'est que son appel à ne pas avoir peur de s'engager dans la mission est étroitement lié à notre union avec lui. C'est parce que vous souffrirez à cause de moi, c'est parce que je suis votre maître. On le voit, hein, il n'a pas arrêté de dire... le disciple n'est pas supérieur à son maître. C'est parce que je suis votre maître que vous allez souffrir. Et donc, n'ayez pas peur. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre l'argumentation de Jésus ici. Il dit qu'on va souffrir, mais n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur parce que moi, j'ai souffert aussi et vous allez souffrir. Autrement dit, ce qu'il dit aux disciples, notre union avec Jésus conduit à prendre position pour Jésus et à avoir du courage pour la mission qu'il nous confie. Pour Jésus, notre allégeance à lui et sa mission est la seule véritable option du disciple. C'est même ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'il y a de plus logique à faire. Notre allégeance à Christ produit l'action du témoignage, l'action de propager le message, de proclamer qui est Jésus, de telle sorte que toute peur s'évanouisse, parce que nous savons qui est notre maître. Toute peur s'évanouit. Et il dit, hein, ce que je vous ai dit en secret, ce que je vous ai dit en privé, vous aurez tout le courage de le proclamer sur les toits. Parce que je suis votre maître et que vous êtes mon disciple ou mes disciples. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas la même situation que ces disciples-là. Nous ne vivons pas les mêmes choses que nous ne sommes pas à leur époque d'ailleurs. 2000 ans après, hein. Nous n'avons pas la même culture juive, nous n'avons pas des chefs religieux qui nous persécutent comme ils ont persécuté Jésus et les disciples. Mais nous avons nos propres défis dans ce monde contemporain, dans cette civilisation contemporaine dans laquelle nous nous trouvons. Et nous avons besoin d'entendre cet appel du Seigneur, avoir tout le courage nécessaire pour proclamer le message de l'Évangile. Les gens de notre temps ont leur propre réticence à entendre le message de l'Évangile. Et nous pourrions être sujets de leur moquerie, de leur raillerie. Alors nous avons besoin d'entendre qu'il ne faut pas avoir peur de ce message, de proclamer ce message. Face à une mauvaise compréhension de la laïcité, par exemple, face aux potentielles accusations de prosélytisme, face à une société post-cosmopolite, pluri-religieuse, nous avons besoin, en tant que disciples du Christ, de ne pas avoir peur, de nous armer de courage et de faire connaître à notre entourage, à nos amis, à nos familles, ce message de l'Évangile de grâce, ce message qui sauve et qui nous accorde le salut en Jésus-Christ. Passons au troisième point, deuxième injonction, de ne pas avoir peur. Et c'est un argument de la souveraineté de Dieu. Et là encore, on a du mal à comprendre en quoi c'est un argument pour Jésus. Mais il dit au verset 28, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans l'enfer. » Concrètement, ce que Jésus dit ici aux disciples, c'est de ne pas craindre les hommes. C'est eux qui peuvent tuer le corps. Parce que la crainte des hommes est dangereuse pour la mission qui nous est confiée. Proverbe 29, 25 dit « La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. » La crainte des hommes est dangereuse. Le « quand dira-t-on ? Comment on va me percevoir ?» Il ne faut pas craindre les hommes, mais plutôt craignez Dieu. Autrement dit, au lieu d'avoir peur de ces hommes-là qui peuvent vous faire du mal, craignez ce que Dieu peut vous faire. Pour le dire encore autrement, les gens peuvent seulement vous tuer. Et on a l'impression que dans la bouche de Jésus, c'est tellement petit, ils peuvent seulement vous tuer. C'est pas grave. Et moi, en entendant ça, j'écarquille les yeux, quoi. Mais ils peuvent me tuer quand même. Mais les gens, ils peuvent seulement vous tuer. Et ça, déjà, en soi, n'est pas quelque chose à laquelle on aspire. Quoique dire cela est aller vite en besogne. J'ai lu des choses des chrétiens des premiers siècles où les gens étaient désireux de mourir en martyr pour la cause du Christ, pour le message de l'Évangile. Limite, ils se précipitaient sur le champ de l'évangélisation juste pour mourir pour Christ. Un peu pour dire comme Paul, mourir met un gain. Je vous accorde que moi, j'ai du mal. Et peut-être qu'à d'autres époques, nous rencontrerons beaucoup de chrétiens qui ont du mal aussi avec ça. Nous nous trouvons à l'aise dans la situation dans laquelle nous sommes. Très peu de persécution, en tout cas en France. On ne nous bouscule pas trop. On nous dit juste, votre message là, gardez-le pour vous, ou à la limite en privé, mais pas sur la place publique. C'est déjà pas mal. Mais nos aînés dans la foi allaient sur le champ de bataille dans l'idée de mourir en martyr pour la cause du Christ, pour le message de l'Évangile, parce qu'ils ne peuvent tuer que le corps. Et ce n'est pas grave pour Jésus. Les gens peuvent tuer vos corps. Mais il dit aussi que c'est Dieu qui est au contrôle de vos âmes. Dieu a seul le pouvoir de tuer le corps. Et là, c'est gentil de dire tuer le corps. Parce qu'il dit avoir le pouvoir de faire périr. C'est une mort violente. Faire périr. Détruire plutôt serait plus adéquat. Dieu seul a le pouvoir de détruire le corps et l'âme dans l'enfer, dans la géhenne, selon les versions. Alors il ne faut pas avoir peur des hommes. La vie que nous vivons sur cette terre, bien qu'elle ne soit pas vaine, selon Jésus, selon la perspective de Jésus, n'est pas à mettre au même niveau que la vie dans l'esprit. Que la vie qu'il nous propose dans l'éternité, sans équivalent dans la perspective du Christ. Après notre mort, tout n'est pas fini, comme pourraient dire certains. Après notre mort, après notre mort, il y a plus. Il y a plus, selon la parole de Jésus. Nous avons une éternité à vivre avec Dieu, en tout cas pour ceux qui l'acceptent. Parce que notre âme ne meurt pas avec notre corps. Dieu est en charge des âmes des gens. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir peur des hommes, selon le Seigneur Jésus-Christ, parce que ces hommes-là sont limités dans leur pouvoir, tellement limités qu'ils n'ont pas la capacité de détruire les âmes. Le pire qu'ils puissent faire, c'est de tuer le corps. Et c'est tout. Alors n'ayez pas peur. Soyez courageux et proclamez la bonne nouvelle de ce salut que nous offre Dieu dans son message. À travers Jésus-Christ. Dieu, il est souverain. Il domine les circonstances. Il domine toutes choses. Il domine notre cheminement de tous les jours. Et il domine le champ de l'évangélisation également. Et puis s'il juge bon que nous mourions sur le champ, nous mourrons. Et s'il décide que ce ne sera pas le cas, Si nous sommes gens de sa maison, comme il le dit, verset précédent, si nous sommes gens de sa maison, engagés dans la mission, alors il est de notre côté. N'ayez pas peur. Dieu contrôle. Dieu supervise les opérations. Il est capable de prendre soin de chacun de nous. S'il peut prendre soin des petits moineaux, des choses qui ne coûtent pas très cher à l'époque, un sou, pas très cher, et Dieu prend soin d'eux. Alors que penser de nous, qui a beaucoup plus de valeur qu'eux. Mais la peur des hommes, en lien avec la mission, pourrait conduire les hommes à refuser de confesser Jésus devant les hommes. Et ça va être notre quatrième point. Jésus est le maître de justice. Et à cause de ça, Jésus met en garde ses disciples en leur assurant de sa justice. Lisons les versets 32 à 33. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Je vous ai dit ici, ceux qui me renieront, je les renierai. devant mon Père. Et vous savez ce que ça veut dire être renié par Jésus? Ça induit nécessairement une condamnation éternelle. Être renié par Jésus, c'est comme une deuxième mort. Être séparé de lui, ne pas être dans sa présence. C'est comme ça que la parole de Dieu définit la mort, en tout cas la seconde. Et on peut souligner que ce que sous-entend l'affirmation de Jésus, c'est le fait que si le disciple ne prend pas son courage à deux mains pour proclamer le message de l'Évangile, s'il choisit, que ce soit explicitement ou implicitement, s'il choisit de renier Jésus, il ne peut pas être assuré de la justice de Jésus. Jésus ne plaiderait pas en sa faveur devant le Père. Bien au contraire, Jésus le renierait devant le Père. Mais ne nous y trompons pas. Jésus ne dit pas seulement ici, j'aimerais que tu fasses un bon travail d'évangélisation, sinon je ne serai pas content. Il ne dit pas simplement ça, sinon je ne serai pas ton avocat devant mon Père. Parce qu'alors nous serions en face d'un cas de légalisme ou de salut par les œuvres. Ce que la Bible conteste fermement. Ce que ces versets nous disent, c'est que notre fidélité à annoncer l'Évangile publiquement, est une preuve que nous appartenons au Christ. Celui qui n'est pas de Christ ne ferait pas ce que le Christ lui demande. Si vous m'appartenez, vous accomplirez mes œuvres, nous dit le Seigneur. Frères et sœurs, je ne voudrais tout de même pas que nous repartions d'ici avec un sentiment de culpabilité ou quelques inquiétudes en nous demandant si nous appartenons effectivement ou pas à la famille de Dieu. En évaluant notre fidélité dans la mission, à la lumière de ce que je viens de dire. Alors peut-être que vous êtes en train en ce moment d'examiner ce que vous avez pu accomplir comme évangélisation. Je l'ai fait pendant la préparation de ce message et je me suis trouvé coupable devant Dieu de ne pas avoir fait un certain nombre de choses. Bien sûr, j'en ai fait. Et j'aimerais continuer à les faire jusqu'à ma mort. Partager cette parole, mais à mon sens, pas suffisamment, pas avec rigueur, pas avec courage quand il le fallait. Et pour cela, je me suis trouvé condamnable. Cependant, si l'Esprit de Dieu nous convainc par sa parole de la nécessité de ne pas avoir peur de nous engager dans la mission, cet enseignement de Jésus aura atteint son but. Si ces paroles de Jésus parviennent à nous bousculer et à nous faire prendre conscience du sérieux de la mission qu'il nous confie, alors le Seigneur aura atteint son but par ces paroles. Et l'une des implications de ces paroles de Jésus ici, c'est que l'une des manières d'être certain que le Christ nous confessera devant son Père, eh bien, elle est liée à notre fidélité de le faire connaître publiquement devant les hommes. Cela ne veut pas dire que tous les croyants sont appelés à être des évangélistes ou des missionnaires à l'étranger ou des prédicateurs de rue. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Mais cela veut certainement dire que Tout croyant se doit d'être des témoins fidèles du message de l'Évangile. Tout croyant, jeune, vieux, moyen, tout croyant qui se dit fils et fille de Dieu, frère de Jésus-Christ, sœur de Jésus-Christ, se doit de proclamer que Jésus est roi et qu'il est venu nous sauver. À nos collègues, à nos camarades de classe, à ceux avec qui nous lions d'amitié. Et ça, peu importe la façon dont nous serons perçus par eux. Vous savez, bien souvent, c'est ce qui freine, c'est ce qui nous fait peur. Comment est-ce qu'on va me voir? Quel regard les gens porteront sur moi? Et nous nous taisons. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit dans sa parole, n'ayez pas peur, ayez courage, parce que par là, vous confirmerez que vous êtes gens de la maison. Vous faites partie de mon royaume, vous êtes mes disciples. N'oublions pas que le Dieu qui est au contrôle de toutes choses est à nos côtés. Il a donné les pleins pouvoirs à Jésus pour que lui soit à nos côtés. Et c'est ce qu'il dit à la fin de ce texte, de cet évangile, au chapitre 28, versets 19 à 20, dans son envoi en mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à courber la tête avec moi. Seigneur, c'est humblement que nous reconnaissons nos faiblesses face à ta parole. Une parole qui est percutante, une parole qui bouscule, une parole qui nous pousse à nous plonger tout au fond de nous et à, avec sincérité, évaluer et dire si nous avons été fidèles dans cette mission que tu nous as confiée. Et si en quelque part, Seigneur, nous nous sommes trouvés coupables, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Te prions de nous apporter ta consolation, ta grâce, de nous armer de courage, Seigneur, pour faire ce que tu nous demandes, de chasser la peur, la crainte des hommes, ceux qui ne peuvent que tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire à nos âmes. Alors merci Seigneur pour ce message que tu nous adresses ce matin. Merci pour ta souveraineté dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es celui qui prend soin de nous. Merci parce que tu es avec nous, tu es à nos côtés. Tu nous assures Seigneur de ta grâce. Tu nous assures de ta présence. Alors béni sois-tu. Et veuille, Seigneur, nous conduire sur ce champ de mission. Donne-nous le courage dont nous avons besoin, Seigneur, pour proclamer ce message que tu es roi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.